Chapitre 34. Ruth gravit le perron de Maria, tandis qu'Arthur restait en faction devant le portail. Elle entendit le cliquetis de la machine à écrire avant d'arriver dans sa chambre. Quand elle entra, Martin finissait de taper la dernière page d'un manuscrit. Elle était venue pour savoir si, oui ou non, il honorerait leur table de sa présence pour le dîner de Thanksgiving, mais, tout à ses pensées, il ne lui laissa pas le temps d'aborder le sujet.
Laissez-moi vous lire ça, dit-il en séparant le carbone des feuillets et en remettant de l'ordre dans son manuscrit. C'est mon dernier-né. Très différent des précédents. Tellement différent même que j'ai un peu peur du résultat, mais quelque chose me dit que ce n'est pas mal du tout. Jugez-en. C'est une histoire hawaïenne. Je l'ai appelée Wiki Wiki.
La ferveur du créateur rayonnait sur son visage, mais Ruth frissonnait dans la chambre sans feu. Elle avait trouvé les mains de Martin glacées quand il l'avait saluée. Elle l'écouta pourtant attentivement, et bien qu'il perçût une désapprobation muette sur son visage, il lui demanda, quand il eut fini,
« Franchement, qu'est-ce que vous en pensez ?»«
Je ne sais pas. Est-ce que ça se... Vous pensez que ça se vendra ?»«
J'en doute, avoua-t-il. C'est trop fort pour les magazines. Mais c'est une histoire vraie. Je vous assure que c'est une histoire vraie.
Mais enfin, pourquoi persistez-vous à écrire ce genre d'histoire si vous savez d'avance qu'elles ne se vendront pas? Je croyais que vous écriviez pour gagner votre vie.
Oui, c'est vrai, mais cette histoire me trottait dans la tête, c'était plus fort que moi. Il fallait que je l'écrive.
Mais ce personnage-là, ce wiki-wiki, pourquoi le faites-vous parler si mal? Je suis sûr que ça déplaira à vos lecteurs. Voilà pourquoi les rédacteurs refusent vos œuvres. Parce que le vrai wiki-wiki parlait comme ça. Mais c'est de mauvais goût. C'est la vie, c'est la réalité, la vérité, et je dois décrire la vie telle que je la vois. »
Elle ne répondit pas, et un silence gêné s'ensuivit. Son amour pour elle l'empêchait de la comprendre, et, quant à elle, si elle ne le comprenait pas, c'était parce qu'il naviguait bien au-delà de sa ligne d'horizon. « À part ça, j'ai eu gain de cause au transcontinental, » dit-il pour orienter la conversation vers un sujet plus plaisant. L'image des trois compères à favoris, tels qu'il les avait vus en partant, soulagés de $4.90 et d'un billet de ferry, le fit pouffer.
« Alors vous viendrez ? » s'exclama-t-elle toute joyeuse. « C'est pour le savoir que je suis venue. »«
Je viendrai ? » reprit-il distraitement.
« Où ? » ?»«
Mais au dîner, demain. Vous avez dit que vous aviez besoin de cette somme pour dégager votre costume. »«
J'ai complètement oublié, » fit-il humblement.
« C'est que... la fourrière a embarqué les deux vaches et le petit veau de Maria ce matin et... eh bien, Maria n'avait pas d'argent, alors j'ai dû récupérer ses vaches pour elle. Voilà où sont passés les $5 du transcontinental. Le son des cloches a disparu dans la poche du préposé.
Alors, vous ne venez pas ?
Il baissa les yeux sur ses habits.
Je ne peux pas.
Des larmes de déception et de reproche brillèrent dans les yeux de Ruth. Puis elle garda le silence.
Pour le prochain Thanksgiving, je vous emmènerai dîner au Delmonico, dit-il avec bonne humeur, ou à Londres, à Paris, où il vous plaira, je le sais.
J'ai vu dans le journal il y a quelques jours, annonça-t-elle de but en blanc, que la poste ferroviaire avait procédé à plusieurs nominations. Vous avez bien été reçu premier, n'est-ce pas ?
Il fut forcé de reconnaître qu'il avait effectivement reçu une affectation et l'avait refusée.
Je suis tellement sûr de moi, expliqua-t-il. Avant un an, je gagnerai plus que 12 employés de la ferroviaire. Attendez et vous verrez.
Fort bien, conclut-elle froidement.
Elle se leva et remit ses gants.
Il faut que je me sauve, Martin. Arthur m'attend.
Il la prit dans ses bras pour lui donner un baiser, mais elle se laissa faire à contre-cœur. Elle resta sans réaction, ne se pressa pas contre lui, et ses lèvres restèrent inertes.
« Elle est fâchée, » se dit-il après l'avoir accompagnée devant le portail. « Mais pourquoi ?»
L'intervention de la fourrière n'avait été qu'un hasard malencontreux, un coup du sort. Il n'y était pour rien, on ne pouvait pas l'en blâmer. À aucun moment il ne lui vint à l'esprit qu'il eût pu agir autrement. Sauf peut-être, oui, à la réflexion,
Il était un peu fautif tout de même de n'avoir pas donné suite à la convocation de la ferroviaire. Et puis, elle n'avait pas aimé Wiki Wiki. À peine eut-il gravi le perron qu'il aperçut le facteur qui faisait sa ronde de l'après-midi et alla à sa rencontre. Il attendait toujours son courrier avec la même impatience fébrile. Parmi son lot habituel de longues enveloppes, il y avait une lettre plus mince, plus courte, allant du New York à Outview. Il hésita à la décacheter. Cela ne pouvait pas être une acceptation, puisqu'il n'avait envoyé aucun manuscrit à ce journal. Peut-être, son cœur s'arrêta de battre à cette pensée, peut-être était-ce une commande. Non, impossible, c'eût été trop beau. C'était une missive brève et officielle, signée du rédacteur en chef, l'informant simplement qu'une lettre anonyme leur avait été envoyée et qu'il se faisait un devoir de la lui adresser en précisant que l'Outview avait pour principe de ne jamais prendre en considération le courrier anonyme. La lettre jointe était écrite à la main. C'était un ramassis de calomnies incohérentes sur Martin, affirmant entre autres choses que le dénommé Martin Eden, qui vendait des histoires au magazine, n'écrivait pas ses histoires lui-même, mais les recopiait dans de vieux journaux, les tapait à la machine et les envoyait en les signant de son nom. L'enveloppe portait le cachet postal de San Leandro. Martin n'eut pas à réfléchir longtemps pour en deviner l'auteur. La syntaxe d'Higginbotham, les expressions d'Higginbotham, le schéma mental d'Higginbotham transparaissaient de la première à la dernière ligne sous l'écriture grossière de son épicier de beau-frère. « Mais pourquoi ?» se demandait-il en vain. Quel mal avait-il fait à Bernard Higginbotham? C'était aussi gratuit qu'insensé. Il n'y avait pas d'explication. Dans le courant de la semaine, une douzaine de lettres semblables lui furent expédiées par les rédacteurs de diverses revues de la côte Est. Au moins, ces rédacteurs se comportaient-ils en hommes d'honneur, songea-t-il. Alors qu'il leur était parfaitement inconnu, certains d'entre eux l'avaient même assuré de leur sympathie. Il était évident qu'ils détestaient les corbeaux. La félonie avait échoué. En fait, elle risquait même de tourner à son avantage, car elle avait au moins le mérite d'avoir attiré l'attention sur son nom. Un jour, peut-être, en recevant un manuscrit de lui, l'un de ses rédacteurs se souviendrait de la fameuse lettre anonyme, et qui pouvait dire si ce souvenir ne ferait pas pencher la balance un tantinet en sa faveur. Ce fut vers cette époque que Martin chuta considérablement dans l'estime de Maria. Il la trouva dans les cuisines un matin, gémissante et en larmes, s'échinant sur son repassage. Il diagnostiqua rapidement une grippe, lui fit avaler un whisky chaud, les fonds de bouteille de Brissenden, et l'envoya au lit. Mais Maria regimba. Il fallait finir le repassage. Le linge devait être livré dans la soirée, sans quoi les sept petits Silva n'auraient rien à se mettre sous la dent le lendemain. À sa stupéfaction, ainsi qu'elle ne cesserait de le raconter jusqu'au jour de sa mort, elle vit Martin Eden se saisir d'un fer sur le fourneau et étaler un corsage de fantaisie sur la planche à repasser. C'était le corsage du dimanche de Kate Flanagan, et Kate Flanagan, la plus pimpante et la plus huppée de toutes les clientes de Maria, avait tout spécialement insisté pour que le vêtement lui fût livré le soir même. Comme chacun savait, elle fréquentait John Collins, le forgeron, et, mais cela, seule Maria le savait, Miss Flanagan devait accompagner M. Collins le lendemain au Golden Gate Park. Les protestations de Maria ne servirent à rien. Martin guida ses pas chancelants jusqu'à une chaise, d'où elle le regarda en écarquillant les yeux. Dans le quart du temps qu'il lui eut fallu pour s'acquitter de la tâche, le corsage fut repassé sans dommage. « Elle n'eut pas mieux fait, » avoua-t-elle à Martin. « Je pourrais travailler plus vite, » expliqua-t-il, « si vos fers étaient plus chauds. » Elle les trouvait déjà bien plus chauds que ceux qu'elle employait. « Vous humectez mal, » continua-t-il. « Là, laissez-moi vous montrer. Il faut une pression. Il faut humecter et presser le linge si vous voulez repasser vite. » Il se procura un grand cajot dans la pile de petits bois de la cave, chercha une planche pour lui faire un couvercle et dénicha des morceaux de fonte parmi les débris que la tribu Silva rassemblait pour le ferrailleur. Il déposa le linge fraîchement humecté dans le cajot, le couvrit de la planche et posa la fonte dessus. Le dispositif était prêt. « Maintenant, regardez-moi, Maria, » dit-il. Il retira sa chemise et, ne gardant que son maillot de corps, empoigna un fer qu'il qualifia de « vraiment chaud ». « Et après le repassage, raconta-t-elle plus tard, il alla laver les linages.
Maria, qu'il a dit, je vais vous montrer comment on lave les linages. Et il m'a montré. En 10 minutes, il fait une machine avec un baril, un moyeu de roue, 2 bâtons et allez hop!
Martin avait reproduit le système de Joe à Shelley Hot Springs. Le vieux moyeu de roue, fixé au bout d'un bâton vertical, constituait le piston, lequel était articulé à un second bâton, attaché au chevron de la cuisine et formant levier, de sorte que Martin pouvait actionner le moyeu d'une seule main en toute efficacité.
« Plus jamais Maria, elle lave les linages », expliquait-elle invariablement en achevant son récit. « J'ai dit au gauche d'appuyer sur le bâton dans le baril et voilà le travail. Il est malin, Eden. »
Cependant, à la suite de cette magistrale opération qui améliorait grandement le fonctionnement de sa cuisine buanderie, Maria le regarda avec beaucoup moins de considération. Le prestige romantique dont l'avait paré son imagination pâlit sensiblement à la lumière de cette triste révélation. Il n'était qu'un ancien blanchisseur. Tous ses livres, ses amis du grand monde qui roulaient carrosse et le régalaient de whisky, ne comptaient pour rien désormais. Il était un simple ouvrier comme elle. Il était membre de la même caste. Il en devenait plus humain, plus approchable, et perdait du même coup son mystère. Martin continuait à s'aliéner sa famille. Après l'attaque injustifiée de M. Higginbotham, ce fut le sieur Hermann von Schmidt qui montra le bout du nez. La vente de plusieurs historiettes, de quelques épigrammes et autres bourrimés, valut à Martin une prospérité passagère. Il commença par rembourser une partie de ses dettes, puis dégagea son costume noir et sa bicyclette. Celle-ci avait une pédale tordue et, en signe de bonne volonté à l'égard de son beau-frère, il l'envoya au magasin von Schmidt pour réparation. L'après-midi du même jour, Martin eut la joie de voir un petit garçon lui livrer la bicyclette et il interpréta le zèle du beau-frère comme une preuve de ses intentions pacifiques. Mais, en y regardant de plus près, il s'aperçut qu'aucune réparation n'avait été faite. En fin de journée, il alla téléphoner au galant de sa sœur et apprit de la bouche de ce monsieur que celui-ci ne voulait avoir aucun commerce avec lui, ni de près ni de loin, en aucune manière.
Hermann von Schmidt, répondit Martin avec bonne humeur, j'ai bien envie de venir boxer votre gros pif de teuton.
Essayez seulement d'entrer dans mon magasin et j'appelle la police, et je vous ferai embarquer. Oh, je vous connais, inutile de jouer les gros bras avec moi, j'ai pas de temps à perdre avec des loustiques dans votre genre, vous n'êtes qu'un fainéant et je travaille, moi. N'essayez pas de profiter de moi parce que j'épouse votre sœur, pourquoi que vous cherchez pas du boulot pour gagner honnêtement votre vie, hein, dites. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
Philosophe, Martin ravala sa colère et raccrocha en poussant un sifflement incrédule. Mieux valait en rire. Mais la chose ne l'amusa pas longtemps et bientôt, il se sentit oppressé par sa solitude. Personne ne le comprenait. Personne ne voulait de lui, à part Brissenden, et Brissenden avait disparu, Dieu seul savait où. Le soir tombait quand Martin sortit de la boutique du fruitier, ses emplettes sous le bras. Un tramway s'arrêta au coin. Une longue silhouette familière en descendit et son cœur bondit de joie. C'était Brissenden. Un seul coup d'œil suffit à Martin pour remarquer la déformation des poches de son pardessus, l'une alourdie par des livres, l'autre par un quart de whisky.